Au revoir.
Bonne continuation.
Alors, ne jamais perdre espoir. Là, c'est l'exemple de Marie-Caroline qui me prend. Au bout de, ouais, on va dire, une bonne demi-heure d'attente à Saint-Andoré, ça m'a un peu surpris, parce que Saint-Andoré, c'est quand même une ville où il y a pas mal de monde, mais aujourd'hui, il y avait très peu de monde, et pas beaucoup de gens disponibles ou disposés à me prendre. Là, il me reste, allez, on va dire, 500 mètres avant d'arriver au pont qui enjambe la voie express. Et là, je vais écrire la pancarte vers le, enfin, Bono, Baden, et je serai arrivé.
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive, à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui que l'on achève notre voyage dans le monde du stop, avec cette musique lancinante d'Ennio Morricone dans les oreilles, j'ai tracé une route entre l'Orient et le Bono, en passant d'abord par toutes les communes rurales, puis le retour du Bono à l'Orient par la voie express. Aujourd'hui, ce sont Max et Nicolas qui seront mes chauffeurs d'un jour. Ils nous feront partager leurs ressentis sur le stop et on pourra encore écouter les conclusions de Hervé Descodin et Fabien Réval, les deux auteurs de l'excellent livre « Tôt ou tard, politique de l'autostop ». Je remercie une fois à nouveau Olivier Chomel de France Culture ainsi que les deux auteurs du bouquin en question de m'avoir permis d'utiliser les extraits de cet entretien. Je vous conseille par ailleurs d'écouter la totalité du podcast de son reportage Le Journal du Stop sur franceculture.fr. Il y a d'ailleurs sur cette station radio un excellent documentaire d'Antoine Lalanne Desmé que vous trouverez en tapant Voyage sur le pouce de Bordeaux à Paris. Bref, on peut dire que le stop inspire encore la création à la radio. On va revenir à notre balade voituro-portée. On va parler des aménagements urbains qui sont destinés au bien-être des cyclistes, des piétons et aux voitures des covoitureurs, mais bizarrement pas aux autostoppeurs, comme le démontre ce carrefour du Broc à la sortie de Ray-Plunerette. Donc c'est reparti, je pars de Plunerette. Là il y a beaucoup plus de voitures et j'ai écrit Baden, vers Baden sur ma pancarte. Et là au culot, je me retourne à chaque fois qu'une voiture passe, tout en marchant vers le pont qui est en jambe à voie express et qui permet d'arriver au Bono. Donc j'ai encore 500 mètres à faire, mais ce qui ne m'empêche pas de me tourner et de proposer encore. Non, d'aller vers Baden. Je fais ça parce que sur la chaussée, il y a la place pour s'arrêter. Les gens ne roulent pas trop vite. Alors là, c'est un véhicule utilitaire, on ne sait jamais. Non. Et donc parfois, la chance, il faut la provoquer. Ça y est, j'arrive devant la clinique vétérinaire, dans le secteur qu'on appelle le Broc. Il y a un hôtel qui s'appelle le Broc. On est route du Bono Baden. Toutes les voitures qui passent par là passent forcément par le Bono. Et c'est un endroit qui est très fréquenté par les autostoppeurs. Parce que ça irrigue à la fois le Bono, Baden, Arradon. Et donc ça peut être des lycéens qui rentrent de comment doré pour rentrer chez eux. Là, j'ai vu personne.
Par contre, la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'aménagement pour que les voitures puissent s'arrêter. Une piste cyclable a été aménagée avec des barrières et qui empêchent les voitures de pouvoir stationner le long de la route. Donc ça c'est malheureusement un problème de la part des urbanistes qui oublient qu'il y a aussi des gens de la précarité ou par choix qui font du stop et que ce serait bien de leur laisser une petite place, 20 mètres quelque part, pour que les voitures puissent s'arrêter. Et là, c'est pas le cas. Il y a à peine 5-10 mètres. Heureusement qu'elles n'arrivent pas vite, pas trop vite, et qu'elles peuvent encore s'arrêter. Donc, dernière étape, avant le Bonneau, avant de voir mon père. Ah, je crois qu'une voiture s'est arrêtée. Ça fait 5 minutes que j'attends. Ouais, c'est pour moi. Ouais. Bonjour, je vais vers Baden.
Ouais, mais je vais au Bonneau. Ouais.
Ah bah très bien, ouais. Merci. Et en même temps, je fais un reportage sur le stop.
Ah, ok.
Donc c'est pour une radio qui s'appelle Radio Balise. Vous appelez comment?
Okay. Max.
Max. Bonjour Max. Bonjour. C'est pour donc une radio qui est à Lorient. Et pour le programme Un micro à la dérive.
D'accord. On avait rencontré quelqu'un de chez vous?
Comment?
On avait rencontré quelqu'un de chez vous, on avait fait un concert à... c'était pour le... une salle de sport du côté de Vannes. Et on avait joué là-bas en fait. Moi je fais partie du groupe Balmaïka.
Oui, c'est un groupe de quoi?
Un groupe de musique trad.
D'accord.
Musique du monde. Et voilà, du coup on avait rencontré un de vos confrères.
La première question, pourquoi vous m'avez pris en stop?
Oh bah parce que c'est ma route et je vous ai vu avec votre petite affichette
Est-ce que vous-même vous avez pratiqué le stop?
Oui, un petit peu.
Ouais. Ouais, ouais. C'est un peu le dénominateur commun de tous les gens qui m'ont pris en stop. Ah, soit ouais. Ils ont pratiqué, soit dans leur famille, ben, leurs enfants ou bien eux-mêmes ont fait du stop.
D'accord, ok. Bah ouais, moi j'ai pratiqué pour pouvoir me déplacer hein, quand j'avais pas forcément de véhicule et c'était plutôt agréable et puis c'est des bonnes rencontres.
Ouais.
Donc il y a aussi le côté convivial.
L'autostop, c'est un contrat gagnant-gagnant entre l'automobiliste et l'autostoppeur. C'est
une sorte de symbiose.
Une sorte de symbiose. De toute façon, quand bien même on arrive avec, à force de technique à convaincre les automobilistes de nous prendre à bord, ils y trouvent forcément un intérêt à un endroit ou à un autre. Hein. Et donc évidemment, les personnes qui voyagent seules, on leur tient compagnie. C'est arrivé que des automobilistes avec lesquels on voyageait tombent en panne, et c'est grâce à nous que la situation a pu être réglée. Enfin, évidemment, c'est vraiment un échange en fait. C'est un échange. C'est pour ça que c'est beau.
Et l'autostoppeur n'est pas seulement un parasite. Il apporte aussi quelque chose au ménage que constituerait.
Est-ce que tu as des très bons souvenirs ou des mauvais souvenirs par rapport à cette période où tu faisais du stop par contrainte budgétaire, on va dire?
Ouais, pas de mauvais souvenirs, non. C'est plutôt généralement des belles rencontres. Après, des fois, il y a moins d'interactions avec d'autres personnes, mais en règle générale, ça se passe super bien, quoi.
Ouais. Donc pas de mauvais souvenirs non plus?
Non, du tout. Non. Non, ça c'est... C'était plutôt agréable et généralement il y avait plus d'échanges qu'autre chose quoi. Donc il n'y a pas d'a priori en même temps donc voilà.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a moins d'autostoppeurs aujourd'hui?
Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que sur les trajets que je fais, moi je vais sur l'Orient et puis après le secteur Auray, c'est vrai qu'il y en a moins et puis les tranches d'âge aussi, il y a peut-être moins de jeunes. Alors est-ce qu'ils osent pas? Je sais pas.
Et qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils prennent davantage les autostoppeurs à leur bord?
Ça sert à rien de rouler tout seul. Hein. On le fait par contrainte, pour le travail, pour des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Tant qu'on a de la place, c'est complètement fou de se dire de pas s'arrêter pour pouvoir dépanner les gens et passer un bon moment.
Donc toi, t'as pas peur? Tu fais pas partie des gens qui ont peur?
Non.
De l'inconnu?
Du tout, non. Non.
Est-ce que pour toi c'est un indicateur de démocratie, de bonne santé du pays que les gens fassent du stop et soient pris?
Oui, complètement. Parce que ça veut dire qu'on fait confiance et puis qu'on a envie de côtoyer les personnes qu'on rencontre juste comme ça sur un petit instant et de pouvoir partager un petit moment, quoi. Donc je pense que c'est très important, ouais. Oui, effectivement. Et puis après, il y a un côté où on fait tomber des barrières. Plutôt que d'être dans la retenue, chacun chez soi, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. On a besoin d'échanger, surtout avec, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la distanciation, tout ce qu'on nous met comme barrière au niveau de notre liberté. Je pense que c'est d'autant plus important.
Ouais. Et malheureusement, ça reste de se perdre.
Ben ouais, c'est de plus en plus compliqué, et puis avec ce qui est mis en place, avec tous les a priori, malheureusement des fois des choses qui se passent qui sont quand même malheureuses, ben, ça met des freins aussi à tout ça, et c'est dommage. C'est dommage, c'est des cas isolés, effectivement, faut quand même peut-être se méfier, mais faut pas être dans cette dynamique-là, quoi.
Tu penses que c'est l'autostoppeur qui prend le plus de risques, ou bien le conducteur qui est davantage exposé?
Ouais, je sais pas, je pense que c'est pareil en fait. À partir du moment où la personne, c'est celle qui a le volant, elle est mal intentionnée, ou la personne qui monte dans un véhicule, c'est elle qui est mal intentionnée. Enfin, voilà.
Est-ce que tu penses vraiment que les criminels, les délinquants, s'amusent à faire du stop pour tomber sur une victime qui vont peut-être estropier
Ouais, non.
C'est un peu amique,
ouais. Ouais, c'est ça. Après, faut arrêter la science-fiction, là, je pense.
Mais là, on est dans le cinéma d'épouvante.
Ouais, hein. C'est ça.
Donc là, tu tournes vers le bourg.
Oui, bah, ça dépend où est-ce que tu
vas. Bah, moi, je vais à Kerderf, un peu plus loin, à 200 mètres plus loin.
Moi, j'habite juste à côté, là.
Ah, bah, très bien.
Je vais te poser juste là, comme ça, si tu veux. Après, c'est ton chemin.
Très, très bien.
Voilà.
Eh bah, super. Je suis parti à 10h30 de Lorient. Il est 3h15. J'ai fait toutes les étapes rurales possibles. Je suis passé par Hennebon, Brandérion, Pluvigné, Landévent, Saint-André, Plunerette, Auray et maintenant le Bonneau. Et là, comment tu t'appelles ?
Max.
Max m'arrête devant le cimetière du Bonneau, c'est un signe. Il faut que je me repose.
C'est pour aller voir Moitessier.
Bernard Moitessier, un navigateur, qui d'ailleurs lui avait fait étape pendant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, le Tour du Monde. En bateau, ouais. Parce qu'il ne voulait pas participer, finalement, il ne voulait plus participer à l'esprit de compétition qui régnait à l'époque, et montrer un peu la beauté du monde. Voilà. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, l'autiste. Merci encore, Alex.
Ben de rien, bonne journée. Au revoir.
Parce que moi, j'aime aussi l'immobilité, mais après un parcours en stop, comme ça, plein d'intensité, moi, ce que j'aime, c'est l'immobilité chez la personne qui nous a pris en stop. Et là, voilà, on est autour de la table, on déguste un bon vin, on prend son temps. Et là, c'est vrai qu'on peut rester 2 ou 3 jours sans difficulté si on est bien accueilli. Et ça nous arrive quand même assez souvent. Et c'est ça, là, je pense qu'on goûte aux joies de la lenteur et on n'a pas envie de repartir tout de suite, quoi. Et on est bien là où on est.
C'est arrivé par exemple en Pologne, il faisait très chaud, je me souviens, il y avait cette espèce d'autoroute un peu en travaux, de la poussière partout, c'était vraiment pas très agréable. Et puis finalement, on est tombé sur un automobiliste qui s'appelait Robert. Donc Robert nous a pris en voiture, il avait un frigo, j'ai souvenir, sur la plage arrière, hein, donc ça a été... Mais bon, il y a toujours de la place, quoi. Il nous a fait de la place. On est allé chez lui, il nous a ouvert sa porte en grand, et il nous a dit « vous êtes chez vous ». Et on est resté chez lui 4-5 jours, voilà. Le frigo était toujours plein, on avait une chambre à nous. Et voilà, non, l'immobilité, au contraire. Autant il y a des pays qui ont cette tradition de l'hospitalité, comme les pays que connaît bien Hervé, cette hospitalité, pour un certain nombre de raisons politiques, culturelles, elle tend à disparaître dans les pays qui sont les nôtres, hein, en Europe occidentale. Et bien justement, nous, la pratique de l'autostop telle qu'on la conçoit, c'est justement d'essayer de reproduire cette hospitalité, même si les moyens qu'on emploie pour la produire peuvent être... pourront être jugés immoraux ou tout ce qu'on veut. Mais finalement, nous, l'expérience qu'on a du monde, c'est et l'expérience qu'on a aussi de notre pays, c'est une expérience d'hospitalité. Non, les Français sont très hospitaliers pour un peu qu'on sache s'y prendre, pour un peu qu'on leur pose les bonnes questions, pour un peu qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont à nous dire, pour autant qu'on arrive à découvrir la fêlure qui cache comme ça au fond de leur trip et puis qu'on arrive à les faire parler. Non, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Toutes les portes peuvent s'ouvrir.
Donc voilà, j'ai été ramené par mon père qui a eu la gentillesse de me déposer à Auray. Après avoir fait des courses ensemble, donc nous sommes, enfin je suis au rond-point qui distribue les routes, enfin qui distribue les directions de Vannes, Lorient. Donc je vais aller direction Lorient, juste après le rond-point, juste après la sortie, là où les voitures n'ont pas encore tout à fait accéléré, mais peuvent encore s'arrêter. C'est là encore généralement qu'on retrouve des autostoppeurs. Donc aujourd'hui je n'en ai croisé aucun. Et là, ça va être un aller simple hors et l'Orient, donc les grands axes. Après avoir fait les axes ruraux, là, on fait les grands axes urbains, type voie express. En général, ça marche très bien. Donc, j'ai préparé ma pancarte. Il y a encore un peu de vent. Et voilà. Donc, c'est parti, 6h-5. Donc là, il y a davantage de voitures qui s'engagent sur la bretelle qui mène à la voie express côté Lorient. C'est quasiment une voiture tous les 10 secondes. Bon, toutes ces voitures ne vont pas forcément à Lorient, mais en tout cas prennent la direction. Donc a priori la probabilité que je sois pris assez rapidement, on me fait signe que non. La probabilité pour que je sois pris rapidement est assez forte. Ah, on me fait non de la tête. Voilà, j'ai pas mal d'interactions avec les conducteurs qui me font des signes, non. Ou alors qui passent comme ça.
Moi, Stéphanie, à Berne, en Suisse. Je peux écouter et réécouter un micro à la dérive sur radiobalise.com.
Ah, ça y est, une voiture s'est arrêtée, Ford. Bonjour, je vais sur Lorient. Merci. Et je fais en même temps un reportage radio.
D'accord.
Donc c'est pour Radio Balise, une radio qui émet dans le Puy-de-Lorient.
Ouais, je connais, je crois.
Et le sujet du reportage, c'est l'autostop. Donc vous êtes mon dernier conducteur, celui qui me ramène de Aurès à Lorient.
Oui.
J'aimerais bien d'abord connaître la raison pour laquelle vous m'avez pris en stop.
Ah, parce que vous aviez une bonne tête et puis j'ai déjà fait du stop, alors je sais ce que c'est.
Ouais.
C'est par expérience et puis non, je pense que... Si vous voulez, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui conduisent seuls dans leur voiture. Voilà, si quelqu'un fait du stop, je considère que c'est qu'il en a besoin. Et... Voilà, c'est pour rendre service, quoi, tout simplement. C'est un acte de charité, quoi.
De charité carrément, là.
Ouais, bah, oui, c'est un service, quoi. C'est un service.
Moi, je pensais plutôt à la solidarité.
Bah, pour le coup, comme je l'ai déjà vécu, si vous voulez, c'est peut-être de la compassion.
Alors d'autres parleront d'empathie, c'est-à-dire que ce que l'autre a souffert, ce que j'ai souffert. Et comment, tu dis, tu prendrais n'importe qui, enfin ceux qui font du stop, qu'importe le faciès, parce que souvent l'habit fait le moine.
Non, franchement, non. Des fois, non. Ça m'est déjà arrivé de pas prendre, parce que... Après, il faut vraiment un cas extrême, quoi, mais... En général, ça va.
Tu es chrétien ?
Oui.
C'est pour ça que tu m'as parlé de charité, alors, peut-être ?
Oui, peut-être, ouais. Je suis sorti de... oui, c'est peut-être ça, ou du sanctuaire, donc peut-être.
À Saint-André aussi ?
Oui.
Alors, il se trouve que cet après-midi, j'étais à Saint-André. C'est... Alors, là, attention. C'est l'endroit où j'ai galéré le plus.
Ah,
ouais, alors, j'ai posé un genou à terre.
Ah là là là.
Une demi-heure d'attente à Saint-André, là ou ailleurs.
Ah, les hypocrites.
Comment ?
Les hypocrites, je
veux dire. Oui, voilà.
Non, bah écoutez, hein, comme quoi. Hein. L'habit ne fait pas le moine, comme vous avez dit. Hein.
Tout à fait, ouais. Après, j'accuse pas que tous les gens qui soient passés devant moi étaient forcément des gens qui étaient dans la pratique et qui le revendiquent. Je fais pas. Mais ça m'a fait sourire d'être à cet endroit. Je pensais pas, vu que c'est une ville assez quand même importante, enfin, c'est pas la petite ville comme Brandérion. Et finalement, ben, j'ai eu moins de difficultés à Pluvigné, Brandérion, Hennebont que à cet endroit. Ça m'a vraiment surpris. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de passages de voitures aussi.
C'est possible, c'est possible.
C'est intéressant de parler de charité parce que c'est une autre manière de voir comment on peut rendre service aux autres. J'avais introduit mon reportage par la notion de républicaine, de solidarité, au sens où on vit dans une république et on a le devoir, en tout cas le droit et le devoir, d'aider les uns dans la mesure du possible. Et pouvoir voyager et aider quelqu'un à voyager, ça faisait partie pour moi de cette citoyenneté partagée. Et là, du coup, là, il y a le regard plutôt chrétien qui, du coup, dans sa philosophie, parle de charité au sens où on va aider l'autre aussi,
aider son prochain,
comme une bonne action, quoi.
Oui, bah après, là honnêtement, pour ce genre d'action, pour moi, il n'y a pas forcément un regard, on n'est pas forcément obligé d'avoir un regard religieux. Non, pour moi, c'est naturel, on doit aider quelqu'un qui est dans le besoin, bon bah on l'aide quoi. Si on peut l'aider, on l'aide, c'est tout en fait. Pas besoin d'aller chercher moi ça paraît évident, mais oui, on peut avoir un regard quand même aussi chrétien après.
La micro la dérive, le stop est mort, vive le stop, épisode 5.
Comment tes parents réagissaient quand tu leur disais là je vais rentrer en stop ce soir, j'ai pas envie de prendre le bus?
Surtout pour moi, c'était pour rentrer plus tôt en fait. Si je pouvais prendre le bus, il n'y avait pas de souci, je prenais le bus. Mais c'est ce que je pouvais rentrer plus tôt, donc je faisais au plus rapide quoi, donc c'était le stop. Mes parents travaillaient, donc. Non, pas de. Moi peut-être au début un peu ma mère un peu d'inquiétude, mais j'étais quand même assez grand donc ça va. Non, pas de réaction particulière.
Donc finalement, c'est la pratique, les faits qui t'ont donné raison et puis qui ont convaincu tes parents, finalement.
Oui, bon, après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le covoiturage. Peut-être que pour les filles, c'est un peu plus délicat, mais pour les jeunes garçons, ça se passe bien.
Il y a déjà eu des mauvaises surprises en prenant des gens en stop?
Non, parce que de toute façon... Si vous voulez, si je veux pas m'arrêter, je m'arrête pas. Donc non, j'ai jamais de mauvaise surprise. Non. Je pense qu'en général, ça se passe très bien. Même avec ceux qui ont peut-être sur qui on aurait peut-être des préjugés, je sais pas. Non, ça, à mon avis, ça se passe très bien.
Grosso modo, la vie fait pas forcément le moine. Parfois, il y a des.
Je pense, oui, c'est vrai.
Et toi, donc, du coup, dans ta pratique d'autostop, tu le faisais par obligation professionnelle? Tu avais un boulot.
C'était du temps où j'étais à l'école.
À l'école, au lycée?
Au lycée, ouais, c'était pour rentrer à la maison plus tôt, quoi. Donc comme c'était à la campagne, je faisais une partie en stop, mais en général, la fin, c'était à pied, donc...
Entre où et où?
Ouais, c'est du côté de Questembert, à 15 minutes de Vannes. Ouais. Donc c'est en pleine campagne, si vous voulez. Pour rentrer chez moi j'habite vraiment en pleine campagne, bon, la moitié du chemin, c'était à pied, quoi. Ça se fait.
Et ça marchait plutôt bien?
Oui, ça va. Oui, en général, ça marche bien.
Là, on parle des années 2015, 2010.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les encourager à prendre les gens en stop?
Il n'y a pas de danger, quoi. Je vois pas là. Il faut être bienveillant, quoi. Il n'y a pas de danger. Ça rend service, quoi. Ça coûte rien, ça rend service. Et puis, des fois, ça peut permettre de faire de bonnes rencontres et de discuter avec des gens très intéressants.
J'ai la naïveté de croire que les gens qui prennent les autres en stop ont la même mauvaise état d'esprit que les gens qui font du stop, qui sont ouverts aux autres comme vous, quand vous nous prenez en stop, vous êtes ouverts aux autres aussi.
Je sais pas si c'est que c'est parce que je suis ouvert, mais c'est un acte. Voilà, c'est un acte de bienveillance, quoi. Après. Ouais.
Et est-ce que tu connais Blablacar?
Ouais. Oui, j'utilise aussi, ouais.
Tu l'utilises comme conducteur?
Les deux.
Et du coup, quand tu...
Conducteur quand même, j'ai déjà fait les deux. C'est pour les gros trajets, quoi.
Alors, la question qui fâche, quand tu es conducteur et que tu prends des gens en BlaBlaCar, si tu vois un autostoppeur, est-ce que tu le prends ?
Oh, j'ai déjà eu le cas, mais bah, ça peut créer des malentendus avec les autres passagers. Quoi.
Et pourquoi ?
Je sais pas, pour créer une forme de jalousie. Quoi. Après, je suis tout à fait d'accord, normalement, on devrait pas faire de différence. Ça m'est jamais arrivé. Mais je vois tout à fait la situation, oui. Mais à mon avis, faut pas hésiter, faut s'arrêter quand même.
Et là, donc là, tu expliquerais à ceux qui ont payé, ben, ça c'est mon droit de prendre quelqu'un en stop.
Vous avez signé, c'est le contrat. Maintenant, après, moi, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça, hein, de toute façon.
Et comment, en revenant en stop, mis à part les allers-retours entre ton lycée et puis, chez toi, t'as eu l'occasion d'aller beaucoup plus loin, de faire des longs voyages ?
J'ai pas jamais fait de voyage. Justement, quand je fais des voyages sur des longs trajets, je préfère être assez organisé au point de vue horaire, on va dire, quoi, pour savoir à quelle heure j'arrive. Et donc c'est là que je fais du BlaBlaCar, en général. Là, c'est vraiment pour des imprévus, en fait. Moi, le stop, c'était pour des imprévus, ou parce que j'avais pas de véhicule, mais c'était pas pour voyager ou ce genre de choses.
Là, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un qui fait un reportage radio.
Oui, oui. J'ai vu le micro, dès que je m'étais arrêté, je me suis dit « Ah, oula !»
Donc le micro, on le voyait pas, en fait, au départ.
Non, ouais. Bah, c'est une bonne chose, je pense. Ouais.
Et qu'est-ce que tu conseilles maintenant aux autostoppeurs pour qu'ils soient mieux pris, qu'ils soient plus faciles à prendre ?
Bon, c'est simple, hein, faut être souriant, c'est tout. Souriant, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des jeunes vraiment mal placés, quoi.
Ouais.
Là, par exemple, je vous ai pris au début de la voie d'insertion, des jeunes qui se mettent tout au bout, quoi.
Ouais.
Bon, c'est du bon sens, mais bien se placer, un bon sourire, et puis la pancarte, c'est pas toujours nécessaire, mais c'est toujours mieux. Après, voilà, c'est du bon sens, quoi.
Oui, mais ça, c'est vraiment aussi l'erreur du débutant, c'est l'autostoppeur qui n'est pas sûr de lui, qui hésite, qui se sent comme un intrus. Moi, je crois que si on part comme ça, si on part de ce pied-là, ça sert à rien de faire de l'autostop. Ce sont ces autostoppeurs-là qui attendent pendant des heures, qui vont pas directement voir les automobilistes aux stations-service, mais qui se mettent au bout de la station-service avec leurs panneaux. Voilà, moi j'ai l'impression que si on commence comme ça, autant rester chez soi parce qu'on n'est pas arrivé. Non, il faut assumer. Il faut assumer le rôle qui est le nôtre. Nous, en règle générale, on va directement voir les gens, on se pose pas la question. On voit une grosse berline qui arrive, on y va.
Voilà, c'est tout.
Et dans les relations que tu as, tes copains, tes copines, certains continuent à faire du stop ?
Là maintenant non, ils ont à peu près tous des véhicules, des moyens de locomotion, donc non, c'est assez rare. Ça arrive quand même. Donc ceux qui n'ont pas de voiture, ça peut arriver qu'ils fassent du stop, ouais. Oui, j'en connais.
Ouais.
Les jeunes, en général c'est les jeunes quand même.
T'as jamais pris des gens précaires, vraiment qui étaient dans la précarité et qui l'ont pris par obligation ? Qui donc du coup sont pas forcément jeunes, mais on va dire des quadragénaires de gens à qui on a retiré le permis ?
Je pense pas, de mémoire, non, ça m'est pas arrivé. Enfin, d'en voir même. Hein.
Oui, oui.
Je me semble que c'est surtout des jeunes qu'on croise. Hein. Non, j'en ai pas vu, honnêtement.
Et tu fais souvent l'aller-retour entre Auray et Lorient ?
Ouais, oui, oui. Bah, là, j'étais à Sainte-Anne, Sainte-Anne-d'Auray, je suis passé voir. J'étais à la cathédrale, là. Mais sinon, oui, ça m'arrive.
Fin de la balade, arrivé en 35 minutes à Lorient, grâce à la charité entre guillemets de Nicolas, j'en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à cette série documentaire sur le stop, à savoir les 7 conducteurs de cette journée particulière. Merci donc au couple Bruno et Nadia, à Laurent le mécanicien, à Nolwenn qui était très strict sur la propreté des chaussures, aux retraités Jackie et Annie, à Norbert et ses amis, à Marie-Caroline, merci à Max et enfin à Nicolas pour le retour sur Lorient. La leçon de ce petit périple qui m'a fait monter et descendre ces 7 voitures est que je suis toujours tombé sur des gens bienveillants avec lesquels j'ai pu discuter, rire et que très probablement je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer par d'autres occasions. Le stop, c'est accepter cette idée folle que dans l'attente, on ne sait pas avec qui on va monter, dans quel véhicule on roulera, de quoi on va discuter et pour le plus aventureux, où ça peut les amener. Et pourtant, à chaque fois,
on ressort de la voiture avec cette confiance en la nature humaine, en cette bienveillance humaniste qui nous permet à nous, autostoppeurs, de simplement partager un temps de voyage calmement dans une confiance réciproque. Dans nos mondes si orthonormés, où tout peut être tracé et est traçable, où les applications internet vous garantissent la sécurité de tout savoir, tout prévoir à l'avance. Dans ce monde-là, je ne connais pas d'autres terrains d'aventure qui nous permettent encore d'avoir ces espaces de liberté imprévus. On l'a attendu et démontré, le stop est une expérience de voyage qui vous ouvre de larges horizons. Pour ceux qui veulent en apprendre encore plus, il existe sur internet une sorte de Wikipédia du stop, ça s'appelle HitchWiki. Ce site vous fera découvrir les conseils de Capitaine Rémy, d'Autonomade et j'en oublie encore. Alors, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous levez le pouce, faites comme cet autostoppeur expérimenté qui écrivait sur sa pancarte « Maman m'attend ». Et là, je vous assure que vous, vous pourrez partir très loin, rejoindre cette maman imaginaire. On se retrouve samedi matin à 10h sur Radio Balise. L'émission est diffusée aussi sur CELAB. Et pour ceux qui veulent rejoindre les preneurs de son d'Un micro à la dérive, écoutez ce qui suit. À très bientôt.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact ? Vous voulez traiter des sujets de société ? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23 06 521 585 23 ou par mail @lapostepoinet. Merci de rester sur Radio Balise.